Je réfute totalement ce qui se
passe.
Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. L'émission est centrée sur les violences sexuelles, ces viols qui ne sont pas seulement commis dans les zones où sévit des conflits armés. Parole aux auditeurs se penche aujourd'hui essentiellement sur ces cas de viols commis dans des zones dites sécurisées. De plus en plus de cas sont répertoriés à travers la RDC. Par exemple, l'ONG de défense des droits de l'homme Synergie Congo a répertorié plus de 100 cas de viols commis ici à Kinshasa en l'espace de 2 mois. Les communes les plus touchées par ces violences sexuelles sont celles de Sélimbao et Massina. Les habitants de ces communes interrogées accusent des hommes en uniforme et autres bandits communément appelés Koumla comme étant les auteurs de ces actes. Des cas qui sont dénoncés au Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga, en province orientale, souvent dans des territoires où il est difficile de croire que ces actes peuvent atteindre une telle ampleur. Les viols est devenu un phénomène de société en RDC. Il y a de cela 2 décennies, les communautés tentaient d'ignorer ce phénomène. Mais maintenant, les victimes et les associations ont brisé le silence. Comment réagissez-vous face à ce phénomène et que faire pour y mettre fin? Pierre Mégis, Nicole Ngaka sont à la réalisation de cette émission. Eric Kessidiakala est à la mise en œuvre.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiooffati.net.
Encore une fois, bonjour, les violences sexuelles dans les zones dites sécurisées et le sujet de notre émission d'aujourd'hui. De plus en plus des cas sont dénoncés, par exemple à la rédaction ici de Kinshasa de Radio Capi. Il est rare de passer 2 jours sans recevoir des rédactions dans les provinces une information qui concerne un viol, des viols commis dans des zones dites sécurisées. Il faudrait dire que le viol est un acte sexuel imposé par une contrainte physique ou psychologique. C'est aussi une agression sexuelle impliquant tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit. Les lois sur les violences sexuelles contre ces violences sexuelle, et parce qu'on en a eu plusieurs ici en RDC, donne plus de définitions à ce propos. Elle modifie et complète le code pénal congolais et aussi le code de procédure pénale congolais. Et voilà, aujourd'hui, on en parle, les violences sexuelles dans des zones où il n'y a pas de conflit, des zones qu'on considère comme sécurisées. On enregistre des cas tous les jours. Nous avons déjà Christopher Mutamba, il est de l'ONG Synergie Congo. L'ONG qui a sorti ce rapport, on a répertorié en moins de 2 mois près de 100 cas de viol, c'est assez inquiétant. Si vous, auditeurs, vous êtes en train de nous suivre en FM ou sur www.radiocapi.net, il suffit de composer le 081-899-7315, le 081-899-7315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net et vous pourrez donner votre avis, vos témoignages, qu'est-ce qui se passe chez vous, mais surtout des remèdes pour mettre fin à ce phénomène. Comme je le disais tantôt, Christopher Mutamba est en ligne. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous avez sorti un rapport quand même qui est vraiment inquiétant, surtout dans des zones où on dit sécurisées, près de 100 cas en 2 mois. Dites-nous un peu comment vous avez fait pour pouvoir enregistrer le nombre de cas de viol.
Oui, il y a tous ces cas, c'est-à-dire lorsqu'il y a un cas qui survient, pour la plupart du temps, il y a des réactions, c'est-à-dire au sein de la famille, tantôt on s'adresse à la police, il y a des éléments que nous obtenons de la police, directement des victimes elles-mêmes.
Mm-hmm.
Bon, en fait, nous sommes vraiment très bien documentés. Et ce qui est préoccupant, c'est de constater qu'il y a des prédescences de viol, surtout dans des espaces considérés sécurisés. Et ça nous préoccupe, ça a attiré notre attention Et qui commettent ces cas de viol, malheureusement, et ce qui est surprenant et très inquiétant, c'est les hommes en uniforme. Les hommes en uniforme. Et là, c'est vraiment préoccupant.
S'il vous plaît, Christopher Moutamba, quand même, les viols, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis l'Antiquité, on parlait de viols. C'est vrai que dans notre culture, on n'en parle pas tellement parce que ce sont des sujets tabous. Mais tout d'un coup, pourquoi le silence a été brisé?
Oui, vous pouvez dire, hein, tout le monde est d'accord pour dire que c'est depuis longtemps que ça a commencé. Mais moi, je peux vous dire que, madame, les cas qui sont répertoriés actuellement, c'est les cas qui parviennent vraiment à nos oreilles où les victimes prennent le courage de se prononcer ou de dénoncer. Mais retenez que le Congo actuellement est reconnu comme la capitale mondiale du viol. Donc,
ça a été retiré pendant un moment parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus et il n'y a plus question de capitale du viol, mais quand même, il y en a plusieurs.
Oui, il y en a plusieurs, mais au Congo, c'est devenu une préoccupation pour toute la communauté et nous-mêmes les Congolais. Retenez que pour les seules provinces du Nord Kivu, bon, ça c'est un rapport que nous avons reçu, et il y a eu plus de 200 cas de viol par mois. Donc actuellement, c'est ça le rythme. Donc pour le Sud Kivu, nous sommes à une moyenne de 600 cas de viol par mois. Et ça, c'est nulle part au monde, madame. Au Congo, c'est devenu une préoccupation. Et ça, on peut comprendre qu'à Salest, où il y a l'insécurité, il y a la présence de forces incontrôlées, mais dans des zones sécurisées, comme la ville de Kinshasa, la capitale où se trouvent tous les dirigeants, tous les animateurs des institutions, où on est censé être en contact avec tous ces gens, le Parlement, le Sénat. Mais à Kinshasa, ils s'opèrent des viols et par les hommes armés. Là, ça dépasse tout entendement. Nous sortons dans les normes, nulle part au monde. On n'enregistre pas des viols dans un espace sécurisé, c'est la intégrité.
Non, c'est vrai, c'est pas un problème. Pour l'instant, nous parlons de la RDC, par exemple, en faisant des recherches. En France, par exemple, il y a 74% des cas de viol sont commis par des personnes connues par la victime. Ce qui signifie qu'il y a aussi des problèmes de viol dans d'autres pays. Mais dites-nous, pour vous, vous pensez que c'est maintenant que les gens en parlent ou bien il y a recrudescence?
Il y a recrudescence, madame. Il y a recrudescence. C'est facile d'ailleurs à démontrer. C'est facile à démontrer. Il y a recrudescence et une recrudescence inouïe lorsqu'il s'agit de la ville comme Kinshasa.
Et au regard, bien sûr, vous avez fait toute une étude là-dessus, savoir comment est-ce qu'aujourd'hui on en parle, et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mettre fin à ce phénomène?
Avant de savoir ce qu'il faudrait faire, pour essayer de comprendre les conséquences. Parce qu'autant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on n'aura pas compris l'impact de toutes ces pratiques sur notre société, bon, on ne mettra même pas les moyens, on n'engagera même pas les moyens responsables pour y mettre fin. Mm-hmm. Bon, la femme qui est ciblée, elle est la base même de tout développement humain. Elle est la source de l'affection humaine. C'est par l'amour qu'on reçoit de sa mère qu'on peut aimer les autres personnes. En tant que mère, c'est elle qui procure à l'enfant la sécurité de base. La sécurité intérieure de l'être humain dépend de la sécurité qu'on a réussie dans la relation au début de la vie avec sa mère. La mère est la première responsable de la socialisation de l'être humain. Par là, la qualité de la relation sociale avec l'enfant, d'où le début de la vie, donc dépend de la qualité de la relation avec la mère. Mais maintenant, lorsqu'une femme est isolée, elle est atteinte dans son intégrité physique et psychique. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de loi pour elle. Elle n'est plus protégée. La société ne la protège plus.
Oui, au regard de toutes ces conséquences sur la vie, dans la vie même de la femme et même de tout son entourage, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ce phénomène?
Pour mettre fin à ce phénomène, madame, il y a des études qui sont menées Il y a une action qu'il faut mener, mais c'est une action qui est globale. Bon, il y a des stratégies de prévention de la violence sexuelle. Bon, au stade écologique, parce qu'il faut comprendre comment on arrive à violer. Comment on arrive, qu'est-ce qui pousse les hommes à violer, les personnes à violer. Bon, et au stade individuel, on doit étudier maintenant l'individu. Comment cet individu s'intègre dans la société. Et il y a le stade communautaire. On doit comprendre la relation de l'individu avec la communauté. Et au stade sociétal, d'une manière globale. Bon, la manière dont nous engageons, dans la manière dont nous écritons, en tant qu'élément armé, les profils de chaque, au niveau de l'équipement, quand on écrit, il faut qu'on puisse s'intéresser au profil du candidat quand il vient pour être armé. Est-ce que, au Congo, on tient compte de tout ça? Ça fait des faux. Donc, ça, c'est d'une manière générale. Pour les cas présents, il se pose déjà un problème. Mais nous avons comme l'impression qu'au niveau du gouvernement, la stratégie que nous avons développée ici n'est pas de mise. Il y a des lois qu'on a prises, bon, bien sûr, sur le texte de loi sur la violence faite à la femme, mais ce ne sont que des textes, mais il n'y a pas de mesure d'exécution de ces lois sur le terrain. Nous nous aurions proposé que ces mesures puissent envisager techniquement la présence des agents de l'ordre de manière drastique à tous les niveaux. Et qu'il y ait une réparation. Quand tous ces cas sont portés au niveau de la justice, madame, à ce jour, on banalise, la justice banalise les viols. Et dans notre culture, si nous arrivons à comprendre, à ne plus considérer le viol comme un acte dangereux, un acte susceptible de bloquer le développement de toute une société, alors c'est grave, la justice banalise. Et plus grave, les agents de l'ordre, parce qu'ils se protègent. Et au niveau du prix de la prise de pouvoir, donc des décisions au niveau du décideur, on propose la peur de dénoncer. Et par ailleurs, on constate même que le viol est utilisé comme récompense à toutes ces forces-là.
Merci beaucoup, monsieur Christopher Moutamba. Vous avez donné des pistes de solutions pour pouvoir mettre fin à ces actes, surtout à ce phénomène qui est constaté en RDC. Nous vous remercions pour votre intervention.
Merci.
Parole aux auditeurs.
Nous avons Dodo qui est au bout du fil, il est à Goma. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Dodo, on vous garde en ligne, mais aussi de signaler que M. Achille Kabongo, aussi au bout du fil, M. Achille Kabongo, il est conseiller du ministre de la Justice et des Droits Humains. Il va aussi donner son point de vue concernant ces viols qui sont enregistrés dans des zones dites sécurisées. Maman, j'ai l'impression que vous êtes une dame, Dodo.
Non, je ne suis pas une dame, je suis un homme.
La voix, excusez-moi vraiment. Oui. Alors, Dodo de Goma, oui. On vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons vraiment des viols commis dans des zones dites sécurisées. Nous n'allons pas entrer dans le cas des viols où on s'est commis dans des endroits où il y a des conflits armés. Dites-nous, à Goma, c'est pas partout lorsqu'il y a des problèmes, mais est-ce que vous enregistrez des cas de viol de personnes dans des territoires où on dit que c'est sécurisé?
Oui. Le cas de viol existe de le bien. On ne peut pas nier, mais c'est un problème que nous devons parler à haute voix. Parce que tu sais, ce n'est pas de notre coutume, ce n'est pas de notre habitude, mais nous devons l'en parler. C'est pour cela que nous parlons, c'est pour cela que nous disons ce que nous disons. Vous savez, maman, bien sûr, nous pouvons parler ce que nous pouvons parler. D'abord, nous devons nous poser des questions. Pourquoi il y a des jeunes?
Mm-hmm. Oui. Et en vous posant cette question, quelles sont les réponses que vous avez pu donner?
Moi-même, je me pose la question et moi-même, je réponds. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a une question, on doit y avoir une réponse. Cela veut dire quoi? Des fois, ce sont les filles qui sont des provocatrices des viols. Là, je ne mange pas les mots à partir de leur habillement. L'habillement est très, très mauvais. Et des fois, quand l'homme est assis, peut-être il a ce problème dans sa tête, il se tourmente, il voit une femme passer mal habillée. Et des fois, il n'a pas la capacité de voir la fille ou bien de causer avec système. Il attend un moment là pour déjeuner. C'est-à-dire quoi? La nuit, lorsqu'il fait l'obscurité, l'homme fait chercher tous les moyens pour offrir la fille.
Mais que dites-vous, par exemple, dans une famille, il y a des voleurs, des bandits, comme l'a dit l'enquête menée par l'ONG qui a répertorié plusieurs cas de viol ici à Kinshasa, lorsqu'il y a des bandits qui font intrusion dans une maison et qui après les femmes se retrouvent violées et on a pillé tout dans la maison à ce moment-là. Est-ce que vous allez dire que c'est l'habillement? Vous pensez vraiment que l'habillement a autant d'ampleur que ça?
Non, normalement aussi, il faut regarder tous les deux angles. Des fois, ce n'est pas l'habillement, des fois, c'est l'homme lui-même par la cupidité, par une mauvaise foi, par une mauvaise volonté. Il cherche tous les moyens pour déranger la chose, pour déranger la fille. Par exemple, il est arrivé, il a volé, il cherche tous les moyens. Par exemple, il a dit que non, la fille est jolie, peut-être il n'a pas la capacité de la marier ou bien de l'épouser. Si parce que là, il cherche tous les moyens pour dégager ce qu'elle est dans son
corps. Et quels sont les remèdes pour pouvoir mettre fin à ce phénomène?
Oui, le remède en est qu'il faut sensibiliser d'abord la population parce que ce sont des histoires qui se passent d'habitude et puis nos familles cachent, nos familles gardent et arrangent ça amiable pour que les gens ne puissent pas savoir, pour que les voisins ne puissent pas connaître parce que c'est un acte humiliant. Mais ce que nous pouvons faire comme remède, il faut sensibiliser d'abord la population. Que la population puisse connaître, puisse savoir ce qui se déroule ces derniers temps, ce qui se passe. Et en plus de ça, s'il y a un cas pareil, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Ce n'est pas un problème de cacher ou bien de chercher à terminer à mieux.
Merci beaucoup, Dodo, pour votre intervention. À partir du Goma, c'est dans le Nord Kivu. Nous prenons M. Kavombo Achille. Bonjour.
Bonjour madame.
Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes conseiller du ministre de la Justice et des Droits Humains. Vous avez suivi sur les ondes ces derniers temps, il y a plusieurs cas de viol qui sont répertoriés, qui sont dénoncés. Et ces cas de viol, nous parlons essentiellement aujourd'hui des viols commis dans des zones dites sécurisées. À votre avis, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Quelle analyse faites-vous de cette recrudescence des cas de viol?
Est-ce que vous me recevez très bien?
Oui, très très bien.
Très bien, ok. Mm-hmm. Merci beaucoup pour la question. Je me présente, je suis coordonnateur adjoint de la cellule technique de lutte contre la corruption du cabinet du ministre de la Justice et conseiller du ministre.
Mm-hmm.
Et là, je vais essayer de donner un point de vue pour essayer de défendre un peu la position du gouvernement par rapport à toutes les analyses qui viennent d'être faites là.
Mmh.
Madame, je vais vous dire ceci, que la culture du viol n'a jamais fait partie intégrante du mode de vie sociale des populations de l'Est de la République. Nous avons vécu sous Mobutu, il n'y a jamais eu de plainte de viol massif.
Il n'y avait pas de négociation peut-être
alors. Non, mais écoutez, il n'y avait pas cette culture-là de viol dans la partie Est de la République. Et même, je vais vous dire que les populations de l'Est de la République sont connus pour être des populations de très bonnes mœurs en matière de respect de la femme. Les Swahili respectent beaucoup les femmes. Je pense qu'ils sont en train de me suivre là. Mais d'où vient cette culture démoniaque? Qui a introduit ça dans l'Est de la République?
C'est pas seulement à l'Est, parce que nous recevons des cas de viol, par exemple dans le Kasaï, dans la province orientale, au Bas-Congo.
Écoutez, madame, quand vous êtes dans un pays en conflit, en guerre permanente, quand vous êtes dans une situation post-conflictuelle, les conflits armés laissent toujours des séquelles. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la vulnérabilité. C'est-à-dire, quand il y a des conflits armés, ces conflits plongent l'État, plongent le gouvernement, plongent les forces armées et même la population dans ce qu'on dit la vulnérabilité. C'est-à-dire une situation de, comment je peux dire, d'abaissement. Le mot approprié, je vais le trouver tantôt.
Donc, à votre avis,
une situation de précarité.
À votre avis, c'est avec le vent de la guerre, il y a plus de viol.
Il y a la culture de la violence, pas du viol. La situation de précarité exacerbe la violence. Et quand elle exacerbe la violence, vous allez voir que dans l'Est de la République, tellement il y a eu des crimes. Ce conflit a commencé dans un certain pays au Rwanda et a été transposé chez nous. Avec l'arrivée massive des réfugiés Hutus en 1994. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Et comme il y avait déjà ce conflit qui s'est poursuivi sur le territoire de la République démocratique du Congo, il y a certains types de précarité qu'il a été difficile à la République démocratique du Congo de gérer jusqu'à actuellement. Et ces situations-là se sont amplifiées. Vous comprenez ? Alors, nous voulons dire ceci que, au commencement, cette culture de la violence-là n'est pas une culture des populations de l'Est. Les Swahili sont connus pour leur respect dans le langage et leur respect dans les mœurs. Ils respectent beaucoup les femmes. Mais cette culture est venue d'ailleurs à cause de la précarité des conflits armés qui a été dans cette situation-là. Alors, je n'aimerais pas m'étendre dans des considérations sociologiques inutiles. J'aimerais tout simplement dire ceci. Que cette culture, quand elle nous a affectés, elle a affecté les deux pôles du pays, de l'Est, et s'est répercutée à l'Ouest. Mais avec ça, l'État congolais, par derrière les institutions, ont pris des lois. Si vous lisez notre arsenal juridique sur le viol, c'est l'arsenal qui proclame les peines les plus fortes en Afrique. Et nous, quand vous vous rendez coupable de viol, c'est-à-dire, si vous sortez, vous avez des rapports sexuels avec une mineure, d'ailleurs, en République démocratique du Congo, l'âge de la minorité a été rehaussé pénalement. Aujourd'hui, la mineure, pénalement, c'est celle qui est âgée de 17 ans.
De moins de 18 ans.
Moins de 18 ans. Si vous avez des relations sexuelles, même si elle est consentante, vous écopez 20 ans de réclusion perpétuelle.
S'il vous plaît, monsieur.
Alors, j'aimerais vous dire ceci, que cet arsenal-là dit ceci. Il n'y a pas de distinction de grade, d'honneur, de rang, ni de fonction politique. En cette matière-là, il n'y a pas de privilège.
S'il vous plaît,
même
s'il vous plaît,
vous êtes un ministre,
s'il vous plaît,
vous rendez coupable de viol, vous écopérez la même sanction.
S'il vous plaît, Achille Kabongo, nous allons vous garder en ligne. Nous allons vous garder en ligne, comme ça nous allons échanger avec vous aussi sur ce que pensent les autres auditeurs sur ce phénomène. Déjà là, vous avez donné votre avis. Comment aujourd'hui en RDC on parle de viol, de violence sexuelle, même dans des zones qui sont dites sécurisées. Restez en ligne le temps qu'on puisse aussi suivre Passion de Magnono et aussi Arsène de Kikwit.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Passion.
Oula, t'as pas la main.
Passion? La passion est à autre chose, on va essayer de pouvoir le récupérer, mais il est en ligne, le temps que Pierrot Lamézi puisse lui dire de pouvoir prêter oreille à ce qui va se dire sur les antennes. Nous prenons d'abord Arsène de Kikwit, bonjour.
Bonjour maman.
Oui, Arsène, vous êtes à Kikwit, est-ce que aussi vous connaissez des cas de viol?
Ok, ici à Kikwit, le cas de viol... Oui, ça existe, mais pas avec ampleur.
Mm-hmm.
Ce sont des cas faits isolés. Parce qu'ici, il y a quand même, c'était, je peux dire, la culture. Hein, la culture est un peu rigide dans ça. Et moi, j'aborderai aussi d'une autre façon.
Mm-hmm.
Alors, le problème de viol ne peut pas seulement se limiter au niveau juridique. Parce que la justice, ok, nous avons des lois établies là-dessus. Mais moi, je pense plutôt que c'est un problème qu'il faut passer plus dans l'éducation, dans l'enseignement et la formation de la femme. Comme la fois passée, je l'ai dit, la femme est sujette à faiblesse. Alors, il faut que la femme elle-même, d'abord, se rende compte de quoi, de ce qui se passe avec son corps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle doit être violée?
Il y a aussi des hommes qui sont violés parce que le viol, c'est l'introduction de n'importe quoi dans les orifices. Là, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais il y a aussi des cas des hommes qui sont violés.
Ok, ok. J'ai parlé de la femme parce que souvent, nous connaissons des viols plus du côté femme que du côté homme.
Mm-hmm.
Bon, ce sont des crimes qui se passent, mais dans l'éducation elle-même, dans la formation, je crois qu'on peut prévenir ça à partir du comportement même de la personne humaine. Parce que même les hommes, même les femmes, quand vous vous comportez correctement, je ne crois pas que vous serez à la portée de viol. Alors, aujourd'hui, ça commence à devenir comme une culture. Avec la guerre qui nous a envahis, oh, bon, il y a des événements tels que ce que nous avons connu ici, qui pouvaient aussi entraîner des cas pareils. Alors, nous devons prendre notre histoire en main pour sensibiliser la population, la femme d'abord qui est plus vulnérable, et les hommes. Pour le faire croire et le faire voir le méfait de ce qui se passe avec le viol. En attendant, vous êtes en train de brandir l'arme juridique, mais constatez partout, l'enseignement est à quel niveau, l'éducation est à quel niveau. Si nous n'essayons pas de remettre l'enseignement et l'éducation en ordre, je crois que la situation va s'empirer et la loi ne saura rien faire. Parce que, tenez par exemple, une dame qui est violée ou bien un homme qui est violé en dehors du centre urbain, en forêt par exemple. Comment la justice parviendra-t-elle à condamner le coupable aussi longtemps que le coupable n'est pas vu? Donc, si nous parvenons à éduquer la masse populaire, je crois qu'il y aura des mesures préventives qui vont aider la population pour ne pas avoir ce cas-là régulièrement, parce qu'on en parle aujourd'hui beaucoup.
Mm-hmm.
Mais nous, ici à Kipuit, vraiment, c'est rare. Au cas où ça arrivait, en tout cas, ça fait du tapage, c'est connu dans toute la ville. Hein.
Mm-hmm.
Je crois que c'est ça ma petite contribution dans cette émission d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Arsène. De Kipuit, il y a Charon Junior Lukonda. Il nous écrit à partir de notre adresse internet pa@radiokapi.net et à partir de Kisangani. Il écrit aussi que les violences sexuelles sont devenues monnaie courante en RDC, surtout dans l'est du pays. Que font les autorités congolaises pour arrêter ce fléau? Cela arrive aussi à Kinshasa d'une manière qu'on ne sait pas vraiment le dire. Le Congo est mal vu par la communauté internationale du fait que les violences sexuelles se propagent comme un champignon dans le sang. Bon, on lui pense que c'est vraiment comme une sorte d'épidémie. Nous avons Serge de Bounia au bout du fil. Bonjour Serge.
Oui, bonjour, Marie-Chantal.
À partir de vous, Serge, on vous écoute. Quelle est la situation chez vous, mais aussi comment y remédier?
En effet, Marie-Chantal, je pense que la situation des violences sexuelles telles que sont chez vous, c'est vraiment très simple. D'autant plus que vous savez, à environ 40 km vers l'ouest de Bounia, dans un groupement appelé Kambashi, vers Mando, il s'est posé récemment un problème de violence sexuelle d'un jeune homme âgé d'au moins 40 ans qui a eu au moins à faire ses sales besoins d'une jeune fille d'au moins 6 ans. C'est vraiment regrettable ce que nous avons pu assister ici à Bounia. Et je pense que ces situations de violence sexuelle doivent vraiment préoccuper le plus haut point tant les autorités locales que les autorités internationales, afin qu'aujourd'hui nous puissions vraiment résoudre ce problème de façon la plus franche possible. Et je pense, à mon sens, il faudrait aussi au derrière de tout ça que ceux-là qui commettent ces sales besoins puissent tout simplement déférer devant la justice et qu'on puisse tout simplement traiter de leur cas de façon avec une considération qui serait non pas les laisser juste après avoir commis ces sales besoins, parce que c'est ce que nous avons pu assister de soi. Une fois commis ces sales besoins, on les retrouve encore dans la rue, on les retrouve encore dans les quartiers, c'est ce que nous sommes en train d'assister. Et aussi, il faut peut-être ajouter au-delà de ça, une culture, en soi même de la famille, pour inclure chacun de nous, pour ne pas connaître les cas de violence, c'est ce que nous le connaissons aujourd'hui. C'est pas seulement dans les zones en conflit armé, c'est presque partout, et je pense que tout ce qu'on puisse dépasser cette situation de façon plus forte
possible. Donc, pour vous, il faudrait faire l'effort pour appliquer la loi dans toute sa rigueur. Merci beaucoup, Serge de Bounia. pour votre intervention. Nous allons revenir à M. Achille Kabongo, juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Kabongo, vous avez suivi nos auditeurs. Qu'en pensez-vous de toutes ces propositions?
J'aimerais dire ceci à mes compatriotes et qu'ils ouvrent grandement leurs oreilles. Que cette situation de viol est imposée à la République démocratique du Congo pour pouvoir exploiter ses richesses dans l'Est.
On dit pas que c'est un peu trop fort.
C'est une situation voulue. Et je demande à mes compatriotes de ne pas cultiver la mentalité du Congo bashing. Je vais m'expliquer. Il y a une culture répandue aujourd'hui sur le plan international qui veut que on parle toujours en mal de la République démocratique du Congo. Et quand un journaliste fait, par exemple, un rapport sur le viol en République démocratique du Congo, il peut décrocher un petit leader. Il peut se voir recompensé sur le plan international. Quand on raconte du mal du Congo, le Congo est sur la terre répandue. C'est bien entretenu par certaines multinationales. C'est bien entretenu par certaines puissances occidentales afin de provoquer toujours le bruit de botte dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce que les Congolais doivent faire attention, j'aimerais dire ceci. Je ne refuse pas qu'il y ait une soif de vengeance dans certaines populations de l'Est. Je vous donne des exemples. Il y a eu des tribus qui ont eu à s'affronter durant les conflits armés. Et il y a eu des tueries macabres, des exactions qui ont été faites. Et en temps normal, certaines personnes sont restées avec une soif de vengeance. Alors, la vengeance, on se venge toujours sur le plus faible du groupe. Si je suis de telle tribu, je vois les femmes d'une telle autre tribu en train de faire les champs. Et nous arrangeons pour les violer afin de venger ce qu'ils nous avaient fait. Il y a de ces tendances-là qui existent aujourd'hui dans l'Est. Mais au-delà de ça, nous devons faire un effort pour que la société de l'Est, c'est-à-dire les partis de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont connu des conflits armés récurrents, puissent passer à un stade consensuel, c'est-à-dire que nous passons de la société conflictuelle à une société consensuelle.
Mais là,
nous trouverons un point commun.
Mais comment y arriver? Parce que là, tout le temps, vous revenez toujours à ce que
vous avez vous donner.
Comment y arriver? Comment y remédier? Parce que ce n'est pas tellement des cas de viol à l'Est, mais non, c'est à l'Ouest. Comment y arriver?
Il y en a à l'Ouest, mais je vous assure que l'intensité de ce qui s'est passé à l'Est de la République dépasse la portée des atrocités.
Quelles sont les pistes de solution pour qu'aujourd'hui ce phénomène puisse être réduit ou bien mettre fin, éradiqué? Parce que c'est assez embêtant.
Je vous donne un exemple simple. Le Rwanda a connu ses gachacha, tribunaux populaires. Le Rwanda a eu son tribunal international d'Arusha. Le Rwanda est passé de la phase de société conflictuelle à société consensuelle. Le Rwanda abolit la peine de mort. Mais pourquoi sur le plan international, il n'y a pas un tribunal pénal spécial sur la République démocratique du Congo, par exemple?
Pleine cogitation, hein?
Voilà, c'est en pleine cogitation. Pourquoi la communauté internationale se refuse? Parce qu'il y a des seigneurs de guerre qui sont de l'autre côté et qui sont tentés, qui tentent encore de revenir, vous avez les informations. C'est-à-dire, il y a ceci, nous devons nous prémunir de telle sorte que...
Mais il faut donc ajouter que, quand même, la communauté internationale a demandé la création aussi d'un tribunal ou bien une forme quelconque de tribunal, mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas vraiment la position. Un moment, c'était oui, un moment, c'est pas le moment, c'est dépassé.
Mais actuellement. Non, on ne crée pas le tribunal pénal international comme on obtient le gouvernement, même quand il crée l'humain. Il faut étudier les conditions d'installation de ce tribunal. Il faut voir comment il peut fonctionner. Ça demande du temps. Ça demande une certaine cogitation.
Après le fait qu'on puisse lutter contre l'impunité, il y a aussi un auditeur qui a souhaité...
Et puis ensuite, n'oubliez pas que le gouvernement a d'autres défis à relever. Il y a des élections, par exemple, qui doivent se tenir au pays. Il y a le cadre macroéconomique qu'il faudrait stabiliser.
il y a beaucoup de problèmes.
Mais le viol, c'est pas un problème qui soit léger. Parce que si on a toute une communauté qui chaque jour répertorie les cas de viol, vous-même, vous connaissez très bien les conséquences.
Il n'y a pas seulement la balle à jeter sur le gouvernement. Je prends le dernier exemple. Lorsque les viols massifs se sont commis entre le 30 août et le 2 avril, 84 bleus indiens.
Écoutez, nous ne parlons pas de cas de viol dans les zones de conflit.
Il n'y a pas eu intervention.
Nous parlons.
Dans les milieux, s'il vous plaît, madame, dans les milieux des Nations Unies, il y a un email qui a circulé qui a des viols qui allaient se commettre. Pourquoi la MONUSCO n'a pas intéressé la partie congolaise?
S'il vous plaît, en tout cas, je sais, nous allons organiser prochainement une émission où nous parlerons des cas de viol dans des zones où il y a des conflits armés, mais aujourd'hui, nous parlons des cas de viol dans des zones sécurisées. Vraiment, ça sera un peu difficile de pouvoir mélanger le tout. C'est un peu compliqué, mais essayons de revenir dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. S'il vous plaît, M. Achille Kabongo.
La ville de Kinshasa.
S'il vous plaît, sauvez M. Achille Kabongo. S'il vous plaît, vous nous écoutez?
Oui, monsieur, vous écoutez.
Oui. Très bien. Alors, pour tout juste en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour mettre fin à ces cas de viol qui sont enregistrés dans des zones sécurisées?
Mais écoutez, c'est la meilleure application de la loi.
Mm-hmm.
C'est renforcer les moyens de la police. Vous comprenez?
Mm-hmm.
Écoutez, on a plusieurs forces de police, il y a même des sociétés. À partir du moment que ces éléments n'ont pas les moyens d'intervention rapide, c'est-à-dire, j'aimerais bien ceci, il faudrait les équiper en véhicules, en numéro vert. Nous savons combien de sociétés de téléphonie à Kinshasa, je pense peut-être 4 ou 5. Mais il faut que toutes ces sociétés de téléphonie mobile puissent disponibiliser des numéros verts pour la population. De telle sorte que nous avons des portables aujourd'hui, quand il se commet quelque chose, une personne peut appeler avec un numéro vert à un poste de police, qu'elle ait des unités ou pas dans son appareil, ce numéro-là passera. C'est pour la sécurisation. Il peut y avoir un phénomène, mais la personne qui est attaquée n'a pas des unités pour atteindre la police. Et puis, il faudrait que ce numéro vert des sous-SIAP, des commissariats, soit vulgarisé dans toute la population.
Mais c'est pour les endroits où le réseau est couvert. Mais lorsqu'il y a des problèmes de réseau, à ce moment-là, comme vous l'avez proposé, qu'on puisse rapprocher les postes de police à la population.
Qu'on puisse rapprocher les postes, non seulement rapprocher les postes de police, mais les équiper.
Les équiper.
Pour intervenir rapidement et efficacement.
Mmh.
Je sais que nous sommes en train de nous atteler. Vous savez que c'est très difficile d'appliquer cette politique-là de la tolérance zéro en matière de viol. Parce que, écoutez, le viol dans l'Est, ou même dans les pays sécurisés, a toujours été utilisé comme une arme. Vous comprenez? Pour essayer un peu de dominer les autres, pour essayer de créer la frayeur dans la population, ou soit pour certaines personnes de trouver un peu un exutoire pour mal faire. Alors nous demandons tout simplement c'est que, pour arrêter ce phénomène-là, il faudrait créer des numéros verts. C'est ce que nous avons demandé. Que dans chaque sous-SIAT, les sociétés de téléphonie mobile qui opèrent en République démocratique du Congo puissent disponibiliser des numéros verts. De telle sorte que, s'il y a un bruit de viol quelque part, directement n'importe qui peut appeler un poste de police et qu'une intervention peut venir automatiquement.
En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Achille Kabongo, pour votre intervention, d'avoir donné de votre temps, parce que là, vous êtes même en plein procès, vous avez coupé pour répondre à toutes ces préoccupations, surtout intervenir au cours de cette émission.
Mes fonctions m'obligent, je dois le faire, mes fonctions m'obligent.
Merci beaucoup. Nous allons écouter Franck de Kananga et Joël de Likasi qui vont aussi donner leur avis sur ce phénomène.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Franck.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
Nous terminons déjà vers la fin de notre émission. Nous passons directement aux propositions pour mettre fin à ce phénomène. Quels sont les vôtres, Franck?
En tout cas, moi, je vais dire ceci, parce que même si les offenseurs des droits de l'homme vont me contredire, je sais que pour mettre fin à cette situation de viol qui nous a été importée de quelque part, il faudrait, quand on attrape quelqu'un qui a commis des viols, que ce soit un homme en uniforme ou comme un civil, on le pend publiquement.
Je crois que là. Vous êtes
pour la
peine de mort.
Oui, peine de mort, vraiment, on les condamne et on les pense publiquement. Je crois que les autres ne pourront pas le faire. Sinon, si on va commencer à aller toujours, voilà, que les droits de l'homme parlent comme ça, il n'y aura pas vraiment un avancement sur ça. Parce qu'au Congo, on ne connaissait pas cette situation, il y a même 10 ans, 15 ans. Non, ce n'était pas vraiment dans notre culture. Même quand un militaire venait pour voler ou faire quoi, nous, jamais, on ne touchait pas aux femmes. C'est devenu comment mon épouvante partout.
Donc, vous voyez, Franck, il faut vraiment une forte punition, il faut pendre les douleurs. Si vous avez pensé, néanmoins, la période est jusqu'à présent, ne s'est pas encore prononcée clairement pour ou contre la peine de mort. Il y a une proposition de loi qui est en pleine discussion au niveau du Parlement. Et là, si la loi est votée et promulguée, à ce moment-là, on saura où est-ce que la RDC se situe concernant la peine de mort. Merci, Franck, pour votre intervention. Bonjour Joël.
Bonjour Madame Marie-Chantal.
Délicatie, on vous écoute. Vos propositions pour remédier.
Merci Madame. Madame, je vais commencer par dire que la courbe de la violence faite à la femme ne fait que s'accroître parce qu'il n'y a pas la sécurisation des personnes dans la société, Madame. Vous imaginez, Madame, même les personnes chargées pour la sécurité des biens et des personnes se lancent aussi dans cette aventure, Madame. Je voulais demander tout simplement que l'État congolais s'implique dans la lutte contre l'impunité. De punir avec force tous ces bandits arrêtés serait aussi une solution pour l'éradication de la violence faite à la femme, madame.
Merci, Joël. L'application de la loi dans toute sa rigueur. Nous avons le professeur Mango. Il est coordonnateur national de la cellule d'études et de planification de la promotion de la femme au ministère du genre, famille et enfants. Professeur Mango, aujourd'hui nous parlons de ces cas de viol enregistrés dans des zones sécurisées. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène?
Merci madame pour la question. Mais je crois que au-delà de ce que les amis ont déjà dit, il reste que les viols dans les zones qui n'ont pas connu la guerre restent expliqués par des faits suivants. Il y a d'abord le fait de la promiscuité dans nos maisons, surtout les quartiers comme Selemba ou Kimbanté, quand je prends la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on arrive à avoir une moyenne de 10 à 14 personnes dans une maison à deux pièces. C'est filles, garçons et parents et enfants ensemble, ça c'est un problème. Il y a ensuite les coutumes, les traditions rétrogrades et fétichistes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est parce que si on fait un viol avec un enfant, un bébé, et donc on peut avoir des promotions, on peut être sauvé de sa maladie. Il y a toute cette mentalité nocive qui est véhiculé dans les quartiers, mentalité certainement due à l'effet de pauvreté, d'un appauvrissement très grave. Et donc c'est tout cela qui amène au fait qu'on arrive au viol. Alors l'autre élément important, c'est l'humiliation. En fait, c'est là que je dis, tout homme qui se promène dans notre pays est un violeur potentiel. Parce qu'en fait, les rapports sociaux des sexes dans notre société, particulièrement en ville, c'est des rapports qui sont établis sur le pouvoir et la force. Et donc, un homme, quand il est dans une position d'humiliation, pauvreté ou quelconque situation, comme cela se passe aujourd'hui régulièrement, le seul moyen pour lui de se faire revaloriser, c'est de monter sur une femme.
fait d'attaquer une femme et de prendre de force l'intimité de la femme, ainsi elle se sent plus sombre parce que la société, entre-temps, ne lui reconnaît pas le niveau de l'homme. Donc c'est un vrai problème dans le comportement de l'homme. Tout homme qui se promène là dans notre société est un violeur potentiel. Le violeur, c'est pas toujours des bandits. Ça, c'était la guerre. Dans les zones de guerre, oui. Mais dans notre ville ici, c'est pas toujours des bandits, c'est des hommes bien sérieux qui réfléchissent, mais qui, pour témoigner de leur pouvoir et de leur force dans la société, abusent des femmes.
Avant que vous puissiez donner vos recherches, ce que vous avez fait, parce que vous êtes dans cette cellule d'études de planification de la promotion de la femme au ministère du genre, famille et enfants, sûrement qu'il y a déjà un projet pour pouvoir lutter contre ces viols dans les zones sécurisées. Nous vous gardons en ligne, professeur Gabi Mango, le temps d'écouter Koutou de Harou, trésor de Kananga. Bonjour Koutou.
Bonjour madame.
Oui, vous êtes à Harou. Dites-nous, que pensez-vous de ce phénomène?
Ok, je m'excuse, je suis à 10 km de Harou, à Harou, précisément. Les cas de viol dans notre ministère existent. Vous pensez que tout le secteur d'Harou, le territoire, qui n'est pas accompli, mais il faut que ces cas existent. Il faut que faire des cas de
viol. Là, écoute, on a un problème de connexion, on n'arrive pas à vous suivre tout à fait bien. On va peut-être vous rappeler plus tard, essayer un peu de vous déplacer. Peut-être que vous êtes sur une montagne de Harou, il y a du vent et on n'arrive pas à bien vous suivre. Essayez un peu de vous positionner à votre vent. Et le temps qu'on écoute d'abord Trésor de Kananga, nous allons revenir à vous, Koutou de Harou. Bonjour Trésor.
Oui, bonjour madame.
Mon Trésor, on vous écoute.
Oui madame, je voulais juste vous remercier. Et puis, je voulais demander ceci à monsieur le conseiller du ministre, qui était le premier intervenant. Lui, on m'a dit que on parle pour les cas de viol dans les zones sécurisées. Il a très bien dit au départ que dans le temps de Mobutu, Mobutu, on n'avait pas enregistré beaucoup de cas de viol. Et aujourd'hui, d'où est venu cet arsenal? C'est ça sa question. Mais il a trop bien dit, et comme il est membre du gouvernement, c'est que le gouvernement doit faire un effort que l'autorité de l'État soit rétablie au moins. Et puis sur ce point-là, avant d'assurer, monsieur et madame, on doit chercher qu'est-ce qui est à la base de ces cas de viol aujourd'hui. Moi, je trouve que la femme congolaise doit faire un effort, débattre sa campagne, d'éduquer toutes les jeunes filles. On doit éduquer toutes les jeunes filles victimes de ces cas de viol.
Il y a aussi des hommes qui sont victimes de viol.
Oui. Il y a aussi des hommes, mais on ne parle pas beaucoup des cas chez les hommes. On nous parle toujours de la violence faite à la femme, on ne parle pas des hommes. C'est pourquoi moi je voulais dire c'est quoi? C'est le non-respect de notre culture. D'après tout, nous sommes des Congolais, nous devons respecter notre culture congolaise. Nous exagérons notre génération. Nous avons préféré copier la culture qui n'est pas la nôtre. La fille congolaise ne se respecte pas. D'abord, le point de mal habillement chez la jeune fille aujourd'hui, c'est l'une des causes. Et les parents.
Mais c'est minime, hein, parce que quand même si souvent les hommes reviennent sur ça, mais la plupart des cas, lorsqu'il y a des viols, ça se passe souvent dans la nuit ou bien c'est par des personnes qui connaissent bien la victime.
Oui, mais ça peut très bien énumérer un point de vue que ça se passe la nuit. Si ça se passe la nuit, comment c'est qu'il y a une responsabilité d'autre part, de la part des parents? Et les parents ne savent pas prendre, assumer leur responsabilité. Comment expliquer à un parent, vous avez une fille à la maison, et la fille sort, elle quitte la maison, sort, peut-être à 10h, elle vous revient à 23h, et demain la fille doit encore repartir encore, pour revenir dans le même verre. C'est qu'il y a les responsabilités des parents.
Donc, responsabilité partagée, pour vous, Trésor, quels sont les remèdes?
Pour moi, la femme doit faire un effort de battre sa campagne. Quand je parle de femmes, je vois nos mamans. Hein? Et qui avaient eu la chance de mieux grandir, elles doivent aussi venir en aide à la jeunesse actuelle et mieux comprendre. La femme doit comprendre aujourd'hui ses caractères.
Merci en tout cas, Trésor. Nous avons le professeur Gabi Mango. Il connaît bien cette situation. Il pourra vous compléter ou donner d'autres éléments par rapport à ce que vous venez de dire. C'est votre avis à vous, c'est ce que vous pensez. Nous vous remercions. Nous allons prendre au clavier le circuit. Ce sera le dernier auditeur avant que nous revenions au professeur Mangou. Claver, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Ah, merci beaucoup, madame, pour la parole. Je salue d'abord.
Là, on a eu des problèmes de connexion avec Claver de Kikwit. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, que ça peut être difficile de pouvoir vous recontacter. Nous revenons au professeur Gabi Mango. Vous avez suivi quand même cette dernière série d'auditeurs. Que pensez-vous de leurs avis?
Alors, premièrement, on ne peut pas dire que l'habillement des filles, ce sont des occasions, est une occasion pour les viols. Non, c'est faux. Parce que là, c'est des hommes qui trouvent prétexte. Imaginez simplement, s'ils reculent un peu de quelques années dans le pays, dans nos sociétés, dans nos villages, les gens étaient à moitié nus, mais il n'y avait pas de cas de viol. Les femmes se promènent jusqu'aujourd'hui en petite robe dans nos villages, il n'y a pas de cas de viol. Donc, il ne faut pas qu'on trouve un prétexte sur l'habillement des femmes. Les femmes ne sont pas plus que des coupables, les femmes sont des victimes de viol. C'est clair, il faut qu'on le voit. Alors, par rapport à cela, je pense que un certain nombre de gens, les hommes souvent, ils pensent qu'il faut renvoyer d'abord la responsabilité au gouvernement. Non, la responsabilité est d'abord dans le comportement des hommes. Voilà pourquoi nous, au niveau du ministère des études faites, on a mis en place dans chacun des quartiers, dans chacune des rues, dans nos provinces, Kinshasa, Goma, Bukavu pour le moment, ce qu'on appelle les conseils locaux des femmes. Des femmes qui vivent ensemble dans leur rue, mais qui font la vigilance sur les comportements des hommes. Parce que c'est des rapports sociaux de sexe qui sont des rapports de pouvoir et de force. Donc les femmes font la vigie sur les comportements des hommes, comment ils regardent les femmes dans leur rue, et comment ceux-ci, et comment ils réagissent vis-à-vis des femmes. Dès lors qu'il y a un comportement qui est pour autant, les femmes peuvent approcher cet homme ou ces groupes d'hommes pour leur dire que ce comportement est dégradant vis-à-vis de la femme. Parce que c'est d'un regard qui est dégradant qu'on en arrive au viol. Donc ça, c'est important de pouvoir les retenir. Et puis, il y a tout le travail qui est fait aujourd'hui avec la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur les genres, où ensemble avec les partenaires d'action en développement, nous, gouvernement, nous sommes dans la ligne de lutter contre l'impunité. Le vrai problème que nous avons dans la lutte contre l'impunité aujourd'hui, que les amis de la justice nous entendent, c'est cette question de liberté provisoire. Il faut qu'on accélère les procédures de mise en accusation des violeurs. Or, si on continue à traiter les violeurs selon les mêmes procédures ordinaires, on en arrive à ce que le viol est considéré comme un petit vol de rue, comme un petit conflit entre les individus. Non, c'est un problème de société, et donc il faut que les procédures de justice soient assez expéditives pour qu'on en arrive à établir les faits et à mettre les accusations, les accusés en punition.
Il y a même, professeur, il y a même un auditeur qui a pensé qu'il fallait pendre.
Parce qu'on ne peut pas utiliser le mal pour régler un mal. Donc, non. Ce qui est établi, c'est qu'il faut simplement qu'on accélère les procédures de justice de manière à mettre au plus vite en accusation ceux qui sont soupçonnés des cas de viol ou ceux qui le coupable potentiel. Mais on ne peut pas juger le viol de la même manière qu'on juge des cas de viol et ainsi de suite. Et pour cela, c'est un travail que nous sommes en train de faire avec le ministère de la Justice et tout le pouvoir judiciaire pour essayer d'aller au plus vite. C'est tout le volet de la lutte contre l'impunité qu'on trouve dans la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles.
Mais là, vous avez dit que vous avez essayé d'installer déjà dans certaines provinces, vous avez parlé du Nord-Kivu, mais aussi de Kinshasa, mais ailleurs, il y a aussi des cas de viol. Quand est-ce que vous prévoyez aussi installer ces
provinces? En continu, là on a installé les provinces, la ville de Kikwit, Goma, Bukavu, Matadi, Bakongo, on est maintenant à Kinshasa, on est en train de poursuivre le programme, c'est pour l'Équateur, et d'abord les grandes villes. En fait, pour contrer toutes les viols qui se font dans des zones sécurisées. Parce qu'on peut être que les viols, c'est seulement les faits de guerre. Nous sommes d'accord. C'est le viol et les faits de guerre, et nous sommes en train de régler ça de manière globale. Mais pour tous ces cas de viol qu'on connaît particulièrement dans les villes à l'ouest du pays, il faut donc une vigilance au sein de chaque ville, de chaque quartier et de chaque commune. C'est ça la démarche qu'on est en train de faire.
Mais puisque les comités que vous avez déjà installés, est-ce qu'ils ont déjà porté des fruits?
Si le conseil travaille bien, nous avons déjà un, en termes de statistiques, ils nous fournissent les informations sur les cas de viol rencontrés. Aujourd'hui, nous sommes en droit de dire que si les cas incidents, notamment pour ce qui est le fait de guerre, nous amènent à plus ou moins 1600 cas par mois, et mais dans l'ensemble du pays, on atteint les 3000 cas de viol par mois. Ça signifie qu'il y a au moins 1000-1400 qui se passe dans des zones où on n'a pas eu la guerre. C'est grâce à ces conseils locaux que nous avons des informations. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons des informations dans le sens de profil des violeurs. On a déjà des niveaux d'information dans les quartiers et dans les communes, notamment tous ceux qui hébergent des gens qui ne sont pas directement leurs enfants, et normalement tous ceux qui dans des familles en recomposition, tous dans les familles en recomposition, normalement tous ceux qui ont pris des enfants à tutelle, ainsi de suite. Donc on a un peu, on commence à dresser les profils de violeurs potentiels en fonction de ces informations. Donc en termes d'informations, nous les avons. Alors, l'autre problème important que les conseils locaux nous disent, c'est l'établissement du cas de viol. Il faut le certificat médical. Aujourd'hui, vous emmenez le cas de viol en justice, on vous dit qui prouve que c'est le viol. Alors, donc, les centres de santé qui sont en proximité dans nos rues, dans nos quartiers, ne sont pas prêts aujourd'hui encore à établir le certificat médical. Quand on vient leur dire qu'une fille a été violée, une femme a été violée, ils ne se donnent pas la peine de vérifier. Or, si les centres médicaux commencent à établir des certificats médicaux de cas de viol, c'est des preuves objectives qui permettent aux institutions et aux jeunes qui sont sur le terrain, notamment comme les ISADEM et tout, de pouvoir porter plainte sans même si la victime ne s'implique pas.
Donc il faudrait encore équiper vraiment tous ces centres de santé, continuer à lutter. En tout cas, professeur, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous remercions aussi M. Chika Bongo et M. Christopher Moutamba qui sont intervenus. Nous nous retrouvons demain pour un prochain numéro de Parole aux auditeurs en province orientale. L'implantation prochaine d'une société civile exclusivement féminine pouvant relever certains défis par rapport à la situation de la femme. C'est un projet, il faudrait dire que les femmes ne trouvent pas leur compte dans les structures existantes. Quel est l'impact selon vous des mouvements associatifs dans votre société? Prenons rendez-vous pour en parler et à demain.